Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 20h, 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Il est noir. Tout de suite, on revient. Bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Il est noir, donc sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et sans plus attendre, quelques annonces.
Ouais, on va démarrer par les annonces, il y a pas mal de choses ce week-end. On vous propose déjà, si vous êtes disponible, ce vendredi 29 janvier à 16h, il y a un rassemblement de soutien à la Poste Lyon, de Lyon Centre, pardon, en réaction à la procédure de licenciement d'un camarade syndicaliste. Il y avait déjà eu un appel il y a quelques temps, mais du coup le truc a été ajourné. Donc du coup c'est remis pour aujourd'hui. On vous relie vite fait le petit appel qu'ils ont lancé pour qu'il y ait, en espérant qu'il y ait du monde du coup ce vendredi 16h devant la grande poste place Antonin Poncet dans le deuxième. Nous, postiers dans Lyon Centre, sommes bien décidés à ne pas laisser passer cette énième attaque de la direction de la Poste contre ses salariés, car nous sommes bien conscients et conscientes que cette procédure de licenciement contre notre collègue est la conséquence de sa lutte incessante pour défendre nos conditions de travail et la qualité de service rendue aux usagers. Ces deux aspects de notre travail qui semblent fondamentaux pour nous sont actuellement foulés aux pieds par notre direction qui cherche par tous les moyens à se débarrasser de tous ceux qui pourraient faire obstacle à sa politique sauvage de rentabilité. De plus, les faits qui lui sont reprochés pour justifier son conseil de discipline paraissent plus qu'insignifiants. Insoumission à l'autorité et propos irrespectueux envers sa hiérarchique directe. En gros, il a dit « je m'en branle ». Et puis, c'est peu après les deux semaines de grève d'octobre contre une restructuration destructrice d'emplois, entre autres, que l'annonce de la sanction contre un collègue est tombée. Il était l'un des moteurs de ce mouvement. Pourtant, comme lui, nous pensons que ces nouvelles organisations de travail mises en place actuellement par la Poste, inefficaces et insoutenables, ne sont plus acceptables. Alors, attaquer notre collègue aujourd'hui, c'est nous attaquer tous ceux qui pensent que les formes de travail devraient être plus justes, humaines et intelligentes. Ce n'est pas seulement en tant que syndicaliste CGT ou même syndicaliste tout court qui doit être soutenu, mais aussi en tant que travailleur acharné à défendre les droits de tous et toutes. C'est pourquoi nous vous appelons, voilà, syndicalistes, postiers, postières, travailleurs, travailleuses, usagers, usagères de la Poste et tous et toutes les autres, un rassemblement devant la grande poste place Antonin Poncet dans le deuxième arrondissement, donc ce vendredi 29 à 16h pendant le conseil de discipline, afin qu'aucune sanction ne soit prise à l'égard de notre camarade, facteur ou tout autre salarié de la Poste condamné pour avoir fait valoir ses droits. Donc voilà pour ce petit premier rendez-vous. Le deuxième, c'est le même jour, mais c'est avant, c'est à 14h30. Donc vous pouvez, à 13h30, même, vous tapez les deux si vous le souhaitez. Hein, voilà, ce serait quand même plutôt pas mal. Ça se passe à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, avec des menaces graves qui ont été portées contre des militants syndicaux CGT Sud. Ça s'est passé le 21 janvier. 7 individus sont venus dans les locaux syndicaux pour proférer des menaces. Ce sont des agents de l'établissement. Ils étaient à la limite de l'agression physique. Ils ont demandé à la CGT et à Sud de valider la mise en place des 12 heures que les deux syndicats dénoncent. Le soir, un des militants a été poursuivi par un agent de service, du service sécurité pour être agressé. La CGT et Sud ont demandé un CHSCT extraordinaire. Il aura lieu donc ce vendredi 29 janvier à 14h30 et nous appelons donc tous les militants et militantes qui le peuvent à venir à Saint-Jean-de-Dieu pour soutenir les camarades à l'entrée de l'hôpital, donc à 13h30. Saint-Jean-de-Dieu, hein, c'est route de Vienne, quartier Moulin à Vent.
Tout à fait.
Donc voilà. Ensuite, pour ce même vendredi-là, si vous voulez enchaîner derrière, si vous avez la motive et tout, rendez-vous à la Plume Noire, donc du coup à 18h30. Donc on accueille un représentant du collectif Nord Zartonk, donc du coup qui va nous parler un petit peu des luttes actuelles en Turquie, notamment du côté des Arméniens et des Arméniennes. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, soyez à l'heure, parce que du coup le rendez-vous est à 18h30, parce que la conférence démarre à 19h. pile, parce que notre camarade donc qui intervient devra vite partir à 21h. Donc voilà, qui pourrait le temps de d'exposer tout ce qu'il a à dire et qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer à la plume noire. Ensuite le lendemain, plusieurs rendez-vous aussi, hein. Il y a un rassemblement contre l'état d'urgence à 14h30 place des Terreaux. Donc voilà, donc c'est un appel un petit peu qui s'est rajouté à celui qui a des, enfin on en parlera tout à l'heure, mais du coup qui s'est rajouté à d'autres appels qui avaient été, qui émanaient d'un collectif dont on fait partie. Voilà, donc il y a ça qui s'est rajouté. Donc bon, on trouvait ça un peu limite, mais du coup on n'a pas craché sur les mobilisations. Voilà, ça sert toujours d'être dans la rue. Donc voilà, on appelle quand même à y aller à cette mobilisation du coup du samedi à 14h30 place des Terreaux. Voilà, en espérant que du coup ça puisse faire aussi un peu d'émulation et que du coup pour le 6 février pour la suite ça puisse se passer bien aussi. Donc ça c'est à 14h30. Ensuite à 16h il y a un rendez-vous place Jean Massé, voilà, pour une manifestation enfin a priori qui est autorisée parce que du coup ça a été interdit depuis l'état d'urgence, voilà, en soutien au peuple kurde. Voilà, on reparlera peut-être tout à l'heure de ce qui se passe là-bas du côté de la Turquie. Moi, là, quand même beaucoup parlé sur les émissions précédentes, mais voilà. Donc il y a une manifestation qui est appelée par les camarades kurdes, donc voilà, donc on appelle à y aller aussi. Donc ça se passe samedi à 16h place Jean Massé, je crois que ça va jusqu'à Bellecour, et puis après à Bellecour vous n'aurez plus qu'à prendre le métro et ou à Pâtes si vous avez encore de la force et de monter sur les pentes à la Plume Noire, puisqu'à 18h30 nous accueillons deux militants et militantes du collectif Migrants 13, donc de Marseille. Voilà, ils vont nous faire un petit peu comme ils sont très calés sur le sujet, voilà, une des personnes qui vient, en plus c'est son boulot, quoi. Donc elle va pouvoir nous former un petit peu sur le droit d'asile. Donc voilà, avec tout le matériel qu'il faut avec. Nous passera aussi quelques courts-métrages qui ont été réalisés sur Marseille par ce collectif-là. Il y aura des tables de presse, tables d'infos, et puis forcément toutes vos questions. Parler un peu aussi de ce qui se passe à Lyon, forcément, mais voilà, ça peut être aussi bien de voir ce qui se passe ailleurs pour peut-être piocher dans les bonnes idées qu'il peut y avoir là-bas, parce que des fois on est un peu devant un mur, on sait pas trop quoi faire en solidarité avec les migrants et les migrantes, et là ce sera l'occasion de poser directement des questions à ce collectif-là qui bosse depuis un moment sur Marseille. Donc voilà pour les rendez-vous, je crois que j'ai rien oublié, puis on enchaînera, mais on en reparlera pour la prochaine fois, mais pour le 2 février, voilà, donc ce collectif dont je vous parlais, la collectif Stop État d'Urgence, voilà, qui regroupe quand même du coup pas mal d'orgas déjà, donc qui appelle du coup à la fin de l'état d'urgence, comme vous pouvez vous en douter, avec une réunion publique, voilà, qui aura lieu le mardi 2 février à 18h30, la salle 3 de la maison de la Guillotière, c'est au 27 rue Béchevelin, dans le 7e, et le samedi suivant, enfin le samedi qui suit, hein, le 6 février, la même semaine, une manifestation, voilà, qui sera au départ de Jean Massé à 14h, voilà, avec des demandes très claires, un levée immédiat de l'état d'urgence et de l'état d'exception permanent, abandon de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité, arrêt de la répression et de la stigmatisation des manifestants, manifestantes et militants et militantes des mouvements sociaux, des migrants et migrantes, des musulmans ou supposés l'être, des quartiers populaires et le respect de la liberté de manifester, de se réunir et de s'exprimer. Voilà, ça se passera le 6 février dans la rue. Voilà, il y aura plein de diffs, des collages, etc. Donc vous êtes forcément au courant, mais faites passer déjà l'info autour de vous. Il faut qu'il y ait du monde à cette manif-là pour qu'enfin qu'il y ait un rapport de force qui s'établisse dans la rue. Donc voilà pour les rendez-vous. Je crois que j'ai rien oublié. Ben, je pense pas. Je pense que ça le fait.
Mais je pense qu'il y aura nécessité de rappeler tout ça en fin d'émission quand même.
Ouais, parce que là, c'est pas mal de choses.
Vraiment chargé cette fin carrément. De semaine quand même.
Donc voilà. J'enchaîne un petit peu, et puis après on fait une petite pause.
Je suis chaud patate,
on peut y aller.
T'es chaud,
on peut y aller. Du coup, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé du coup du côté de Calais ce week-end, vous avez sûrement entendu parler. Du coup, il y avait une manifestation de soutien aux migrants et aux migrantes. Donc ça se passait le 23 janvier dernier. Je vais vous lire le communiqué du coup du collectif unitaire d'organisation de la manifestation, parce qu'il y a un peu de bisbille. Ce samedi 23 janvier, 3000 migrants, réfugiés de la jungle, réfugiés et sans-papiers de Paris, de Marseille, de Lille et d'ailleurs, membres de mouvements de solidarité de Calais et sa région et d'autres villes, militants et militantes venus d'Angleterre, de Belgique et d'Allemagne ont manifesté à Calais. C'est la plus grosse mobilisation sur ce sujet ayant eu lieu à Calais. Au même moment, des manifestations du même type ont eu lieu à Evros, à la frontière entre la Grèce et la Turquie, et à Lampedusa. Malgré quelques provocations très peu nombreuses de l'extrême droite, qui sont quand même assez actifs là-bas, la manifestation a eu le visage de la détermination et de la solidarité. La confiance transmise par cette magnifique manifestation a amené des centaines de migrants et migrantes à décider d'obtenir ce qu'ils revendiquent légitimement, leur liberté de circulation. Après la fin de la manifestation, débordant les forces de police, ils ont manifesté jusqu'au port pour tenter d'embarquer sur un bateau. Plusieurs dizaines ont même réussi à entrer sur un ferry à quai. Suite à cette action, la police a arrêté au moins 11 personnes solidaires et 24 migrants et migrantes. La manifestation a été la démonstration que la solidarité est un projet de société qui a bien plus d'avenir que les politiques menées actuellement, qui font de Calais une ville sinistrée et barbelée. Nous exigeons donc la libération immédiate de tous et toutes les manifestants, manifestantes arrêtées, quel que soit leur statut ou leur nationalité, et le retrait de toutes les charges. Donc voilà pour le communiqué du collectif est unitaire. Et vous avez sûrement entendu aussi parler de cet abruti facho, voilà, qui a rien trouvé mieux, enfin avec toute sa famille, hein, parce que apparemment il y a une bonne famille là dans la maison, qui n'a rien trouvé mieux d'aller provoquer à l'angle de la rue la manifestation qui passait. C'est des néo-nazis notoires du coin qui font partie des collectifs, et donc cet abruti a pas trouvé rien trouvé de mieux que de sortir une arme à un moment donné. Donc voilà, super. Sauf que bien sûr, bah la presse dire bourgeoise de masse, vas-y, bah du coup, pas parler de ça forcément, ou très peu. Ils ont même, France 2 a même été interviewé cette pauvre famille excédée par les migrants et les migrantes, sans à un moment donné se poser la question de qui ils étaient, alors que bah, c'était très simple, hein, il suffisait d'aller un peu farfouiller sur le net, de taper leur nom, et puis voilà, on trouvait qui c'était. Donc je vais vous lire un petit texte qui avait... du coup, qui a été mis sur la Horde. Quand la presse a décrit l'agression armée contre des migrants lors de la manif du 23 janvier à Calais, on a pu lire, entre guillemets, un riverain excédé brandit un fusil devant la manif de soutien aux migrants. Ou encore, ça c'était 20 minutes, à l'approche du cortège vers sa maison, un habitant excédé est sorti de chez lui. Le point. Bref, un geste d'agacement de la part d'un brave citoyen harcelé par les hordes de barbares qui passent devant sa porte. Même son arme à feu, selon la préfète du Pas-de-Calais, serait factice. Bah, du coup, ça tout va bien. Évidemment, il s'agit d'une fable que les médias et l'État ont tenté de nous vendre avant de rejeter la faute sur les migrants et leur soutien. Car la réalité, c'est qu'il s'agit d'un militant d'extrême droite convaincu depuis plusieurs années qui est habitué au maniement des armes. Donc Gaël, entre guillemets, Steinar Rougemont, âgé de 21 ans, est un skinhead néo-nazi, chasseur à ses heures perdues, qui aime exhiber des armes à feu. Mais attention, il est aussi un grand ami des bêtes et des canards de la photo aussi. Enfin, il y a des photos du coup, sont certainement endormis, puisque Rougemont ne dispose que d'armes factices, ou d'airsoft, selon les dires de Fabienne Bucchio, préfète du Pas-de-Calais. En dehors des armes à feu, ce Gaël Rougemont partage avec ses amis une autre passion, le nazisme. Donc là, il y a plein de photos, vous avez sur l'article de la Horde, c'est assez frappant, hein, visuel, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut notamment voir ce Rougemont avec un certain Sylvain Von Totten, hein, devant un drapeau dont on devine qu'il représente le symbole de la SS. Voilà, Von Totten est lui aussi un parfait démocrate. Hein, sa matraque télescopique que l'on voit sur l'autre photo est elle aussi probablement factice, à moins qu'il ne s'agisse de l'antenne amovible de son téléphone. Quoi qu'il en soit, le bonhomme a quand même de drôles de fréquentation. Sur une autre photo, bon, on reconnaît Von Totten, Kevin Reich, dont on a parlé longuement à cette émission, un chef de Sauvons-Calais, Charlène, entre guillemets, Blanc, la chanteuse du groupe de rock néo-nazi Northern Impact, et le très antisémite Vincent Vauquelin, leader du groupuscule Dissidence Française. Voilà, sur une autre photo, on le voit faire le service d'ordre du Parti de la France dans Pas-de-Calais, dont le chef est aussi dans le service d'ordre de Sauvons-Calais. Donc voilà, vous pouvez faire un tour si vous voulez jeter encore un petit œil sur cet article-là. En plus, moi, sa tête, c'était très rigolo parce que sur la dernière manif, je crois, du collectif Vigilance 69 qui passait par Saint-Jean, et ben, il y avait des têtes qu'on connaissait pas en face. Et ben, du coup, il se trouvait qu'il était là. Je l'ai reconnu sur la photo. Donc voilà, qui venait en découdre un petit peu. Donc voilà, donc ce gars-là, voilà, c'est bien, ce serait bien quand même que les médias fassent un minimum leur boulot et vérifient un petit peu leurs sources et les noms qui balancent comme ça. On voulait faire aussi un petit point sur toujours Calais, hein, parce que ce même jour, il y a des réfugiés syriens qui séjournaient donc dans le camp, et ont été attaqués par des hommes masqués. Les faits ont été rapportés par plusieurs ONG humanitaires. Hein. Les faits se sont produits alors que les réfugiés étaient sur le chemin du retour vers le camp après une vaine tentative de réaliser la fameuse traversée vers la Grande-Bretagne. Donc c'était dans la nuit, pas d'hommes masqués dans le centre de la ville française. Donc les faits sont produits alors que les réfugiés étaient sur le chemin du retour. Pardon, j'ai déjà dit ça. Ils ont été entourés en rue par environ 6 hommes qui, selon les victimes, portaient des uniformes sans insigne, expliquent ces organisations. Sous la menace d'armes, les victimes ont été forcées de leur remettre leur GSM et leur argent. Les réfugiés ont également dû leur donner leurs papiers et passeports sous le prétexte qu'ils pourraient partir ensuite. D'après les victimes, les assaillants avaient des armes à feu, des matraques et des barres métalliques. Elles ont également été obligées d'enlever leurs chaussures et de les abandonner. Les réfugiés ont été frappés durant une bonne demi-heure. Ils ont ensuite réussi à rejoindre le camp où ils séjournent et ont été emmenés à l'hôpital par des bénévoles, où au moins deux d'entre eux ont perdu conscience. Il est question de côtes cassées, de fractures du crâne et de la mâchoire, d'une orbite cassée et des raflures. Bon, la police judiciaire a lancé une enquête. Hein, voilà. On verra bien ce que ça donne. Hein. Et puis, toujours sur cette Pas-de-Calais, du coup, on voulait saluer les camarades parisiens et parisiennes, parce que du coup, il y avait des camarades du groupe Région Parisienne de la CEJA qui étaient à Calais, et notamment avec ce tract dont je vais vous en lire une partie. Donc voilà, violence policière frontière meurtrière face au racisme d'État, unité populaire. La CGA tient à apporter tout son soutien aux migrants et migrantes de Calais et d'ailleurs en cette journée de lutte méditerranéenne contre l'Europe forteresse pour que tombe le mur meurtrier d'Evros en Grèce. Pas de mur entre les peuples, pas de peuple entre les murs. Aujourd'hui, alors que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière au monde, on compte près de 25 000 mortes en Méditerranée. Des dizaines de milliers de migrants et migrantes continuent d'être traqués, maltraités, chassés partout en Europe. En France, depuis son instauration, l'état d'urgence n'est pas autre chose que le renforcement des violences contre les migrants et migrantes par les politiques et discours anti-migrants, migrantes et islamophobes, par la criminalisation des migrants et des migrantes. L'arrestation récente d'une vingtaine de grévistes de la faim dans un centre d'hébergement de Paris, dénonçant l'indignité de leurs conditions de vie, a été un coup de plus pour faire taire les migrants et migrantes qui s'organisent. Les violences contre eux et elles, ceux et celles de Calais, pardon, et aux frontières sont des appels au déchaînement de violences contre les migrants et migrantes. Résistons par tous les moyens. Les agressions des nervis d'extrême droite contre celles-ci et ceux-ci de la jungle se multiplient dans l'impunité et la complicité de l'État. Le renfort des policiers aux actions des milices fascistes locales contre la jungle est vérifié. Le gouvernement socialiste français met en scène son pseudo-humanisme et sa prétendue responsabilité annonçant se répartir 120 000 migrants et migrantes avec les États européens. Ceci pour mieux ficher, refouler, enfermer, expulser tous et toutes les autres en accroissant encore leur arsenal répressif. C'est d'année en année que les lois et mesures sécuritaires s'empilent pour transformer la violence de l'exil au crime. À la division entre immigrés et nationaux viennent s'ajouter une nouvelle catégorisation, celle entre les bons et bonnes réfugiés qui fuient les guerres, enfin certains et certaines, et les mauvaises migrants et migrantes, entre guillemets économiques, voleurs et voleuses de travail, de prestations sociales et terroristes en puissance. Face à ce tri abject, la coordination des groupes anarchistes réaffirme avec force qu'aucune humaine n'est illégale. Pour nous, il n'y a pas, il n'y aura jamais de bons et de bonnes, ni de mauvais et de mauvaises migrants et migrantes, que des opprimés face à des minorités dirigeantes qui tirent profit de l'oppression du plus grand nombre. Quelle île fuit la misère ou la guerre, tous et toutes les migrantes sont les victimes des mêmes exploiteurs et de leurs relais à la tête des États. Colonisation hier, néocolonialisme aujourd'hui, c'est le pillage organisé des ressources du Sud par le capitalisme occidental et les potentats locaux qui forcent les gens à fuir. Les frontières et leurs conséquences, le nationalisme sont l'arme des minorités dirigeantes. En divisant les peuples, en les jetant au besoin les unes et les uns contre les autres, elles entravent l'indispensable solidarité internationale entre tous et toutes les exploités. Voilà, face à la forteresse Europe, une seule solution, brisons les frontières, opposons une solidarité de classe et internationaliste au racisme et à l'impérialisme occidental. Donc voilà, et pour finir sur cette longue page, mais en même temps c'est un sujet d'actu hein, sur les migrants et les migrantes.
Tout à fait.
Je voulais juste continuer avec le petit bouquin dont on vous parle depuis quelques semaines, hein, qui s'appelle « Petit guide de survie, répondre aux préjugés sur les migrations ». Voilà, vous avez déjà lu 4-5, voilà, il y en a 6 qui sont sortis pour le moment. Je vais continuer. Donc c'était le préjugé, c'était l'immigration renforce le chômage et la crise. Et voilà l'argumentaire que vous pouvez du coup donner à vos collègues de boulot, vos voisins, vos voisines, un peu avec tout le monde. Lorsque les choses vont mal chez nous, il est courant de désigner des boucs émissaires. Souvent, ce sont les immigrés qui en font les frais. On les accuse tantôt de voler le travail des Français et de faire grimper le taux de chômage des nationaux ou de faire le jeu des employeurs en faisant pression à la baisse sur les salaires. Sous un vernis, entre guillemets, humaniste, d'autres diront qu'il ne sert à rien de les laisser venir chez nous si on n'a pas de boulot à leur offrir. Voilà, discutons avec la fameuse tante française, hein, de la réalité du marché de l'emploi en France et du bénéfice du travail immigré pour l'économie française. Dans certains secteurs d'activité en France, il y a une pénurie chronique de main-d'œuvre. Le bâtiment, la restauration, le textile, l'habillement, les hôpitaux, le nettoyage, les aides à la personne, l'agriculture saisonnière manquent souvent de personnel. Beaucoup d'immigrés travaillent dans ces secteurs, souvent en situation illégale. Les employeurs profitent ainsi d'une main-d'œuvre malléable, corvéable et que l'on peut sous-payer. Si le travail illégal est théoriquement interdit, les pouvoirs publics ferment pourtant les yeux sur les embauches de clandestins devenus un maillon essentiel de l'activité économique en France. Pour l'ONU, l'effet d'éviction pour les travailleurs non immigrés n'est pas prouvé car les conditions de travail sont dans ces secteurs en rebut de bon nombre. En refusant d'améliorer les salaires et les conditions de travail qui rendent ces métiers répulsifs pour tout autre salarié que des clandestins, les employeurs entretiennent le système d'exploitation. Seule une régularisation de tous les travailleurs et travailleuses sans papier pourrait mettre fin à l'exploitation dont ils sont victimes. Entre 2008 et fin 2010, la France a perdu 430 000 emplois, dont 70% dans l'industrie. Ce sont les licenciements boursiers, licenciements alors que l'entreprise est en bonne santé, et les délocalisations qui consistent pour une entreprise à transférer ses activités dans un pays où le droit du travail est plus souple et la main-d'œuvre moins chère, qui mettent les salariés français à la rue et non les émigrés. Sans eux, la crise serait certainement plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si l'on se place du point de vue du pays d'accueil, l'afflux de travailleurs étrangers est sans conteste un atout pour l'économie. Ils consomment, augmentent la demande de biens et services, etc., etc. Enfin, d'un point de vue démographique, l'immigration contribue au rajeunissement de la France dans un contexte d'Europe vieillissante et surtout ça mélange les gens et c'est plutôt bien. Donc voilà pour cette grosse page migrants et migrantes. On y reviendra certainement dans les semaines qui viennent de toute manière parce que la solidarité reste à s'organiser. Je finis vite avant la petite pause musicale par vous rappeler qui est une collecte permanente à la Plume Noire lors des permanences, mercredi 17h-19h, samedi 15h-19h. Il y a tout sur le site cgalion.waton.org, ce sera en fin de semaine notamment sur Rebellion, voilà, avec tout ce que vous pouvez éventuellement apporter, tout ce qu'il y a de besoin, puis nous après on s'occupera de redispatcher tout ça. Et le lundi soir, tous les lundis soirs à 18h, pareil à la Plume Noire, au 8 rue d'Hydrou, des cours de langue, voilà, pour des nouveaux débutants, voire très débutants. Donc là on a besoin soit de personnes qui donnent la main pour les cours, soit que vous passiez l'info aux premiers et premières concernés, ce qu'on a commencé à faire de notre côté, mais chacun son réseau aussi, pour éventuellement qu'ils viennent profiter de ces cours-là. Et ensuite, on fait un appel aussi pour du matériel, voilà, quel qu'il soit, pour nous aider aussi à rendre ces cours plus vivants. Donc, c'est matériel audio, vidéo, ça peut être tableau blanc, ça peut être fourniture scolaire, ça peut être des ouvrages, notamment de français, langue étrangère, la méthode FLE, pour les primo-arrivants, etc., etc. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à faire passer le mot, puis à vous-même passer à la Plume Noire, soit pour la collecte ou pour les cours. Tout bon? Bah tout bon, on peut faire la première petite pause du coup.
Une petite pause musicale,
je vous en prie.
Ça vous dit? Eh bien on va écouter Brigitte Fontaine et Areski Belkacem qui nous interprètent Vous et nous.
Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dévouez-nous, dévouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous, avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous, nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des nous, sommes des nous, des filous, nous sommes des poux, des bijoux.
C'est reparti, vous êtes toujours sur Idées Noires, sur Radio Canu, avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et maintenant, c'est les luttes sociales.
Oui, une poignée de luttes sociales, et on va partir du côté du Finistère, et même dans le Finistère, carrément, puisque c'est à Fouesnant, avec une mobilisation pour les migrants et migrantes, justement, kurdes, réfugiés dans cette petite ville. 400 personnes se sont mobilisées en mairie pour un accueil digne et qui a été mené donc par ce collectif. 27 personnes ont pu recevoir un abri de qualité, un village vacances qui a été réquisitionné pour des familles venues donc de Calais. A signalé que le Front National du coin a manifesté avec une manifestation anti-migrante, immigrante, donc un minable rassemblement, une minable manifestation de 40 personnes. Et il y a eu également une contre-manif pour les refouler, ce qui a été réussi d'ailleurs. Des collages racistes, hein, c'est à signaler, avaient été collés des affiches la veille. Et pour terminer là-dessus, ben, les enfants seront scolarisés aussi. Leur transport sera également assuré. Simplement pour préciser qu'à Fouesnant, eh bien, il y a 9500 habitants et habitantes. À Paris 18e, c'est le quartier dit de La Chapelle avec une école occupée, l'école Pajol. C'était le 15 janvier. en soutien à la libération de monsieur Gao Peng, détenu depuis le 23 décembre au CRA de Vincennes suite à une OQTF, une obligation à quitter le territoire français, je précise. Il est le père d'une élève de l'école Pajol. Il y avait appel à mobilisation et rassemblement tous les jours à cette date pour la libération de monsieur Gao. Rendez-vous à l'école même sur initiative des parents d'élèves et d'enseignants et d'enseignantes. Crainte, eh bien évidemment, c'est l'expulsion vers la Chine via une décision de la préfecture de police de Paris. La famille est en situation de précarité et comme ça ne suffit pas, le parquet a fait appel d'une décision de la juge des libertés en faveur de la famille Gao. Les pompiers maintenant, je parle des pompiers professionnels et salariés, qui est en particulier en Bretagne, exactement à Lambézelec, et encore plus ceux de la caserne de Kéralan, qui était bloquée, donc cette caserne, le 16 et 17 janvier dernier, par la CGT Pompiers, en grève de 24 heures, une grève, encore une fois, je précise, administrative, qui bloque donc les livraisons, les courriers, etc. Les menus services, en quelque sorte, pour ne pas gêner. Alors, grève de solidarité à trois collègues de Concarneau, dont deux du CHSCT, qui ont été mutés sur d'autres casernes, et une personne a été même rétrogradée, donc c'est des mutations disciplinaires. Des sanctions, en somme, des punitions dues à aux participations et organisations de grève. Manque de dialogue, etc., etc. Ça se passe aussi comme ça chez les soldats du feu. À Chambray, c'est dans l'Eure, c'est AEG Power qui tient la place, c'est ex-Alcatel, car la direction AEG Power Solution a choisi la solution, donc un plan de restructuration dans cette entreprise non déficiente. On élabore et on fabrique des systèmes de secours d'énergie, 140 salariés, et bien la solution, on vire. Tout simplement, 31 licenciements et 14 modifications de contrat de travail. L'horizon, sont les minima sociaux et pour ceux qui restent, le bagne assuré selon les grévistes. Alors, une répression vous en voulez, c'est une répression sur syndicalistes, comme il est de coutume en ce moment. Et cette fois, c'est sur quatre syndicalistes de Ford à Blanquefort, la FAI exactement, la FAI, ne nous trompons pas quand même, c'est pas la Fédération anarchiste ibérique. Donc la FAI, c'est Ford Aquitaine Industrie, donc c'est à Bordeaux, Blanquefort est proche de Bordeaux. Les quatre ces quatre syndicalistes devaient recevoir une convocation pour être auditionné le 1er février au commissariat de Paris 15e. Suite à deux plaintes de Ford de 2012 et de 2014 sur des actions au salon de l'auto. Je ne sais pas si on se rappelle un petit peu de ce qui s'était passé à ce moment-là. Alors ça tombe probablement super bien pour la direction, puisqu'en 2015, il y avait des craintes quand même qui se sont encore... des craintes qui se sont fait sentir selon l'intersyndicale qui se présenterait évidemment sur des suppressions de postes probables. La santé maintenant, sont les salariés des cliniques du groupe Courlancy, deux établissements à Reims, ont débuté cette lutte récurrente dans la branche ainsi qu'à Bézanne, en Marne, dans la Marne, pour un récurrent, encore une fois, histoire de négociation annuelle. Cinq jours fériés devraient sauter du calendrier, rien que pour les beaux yeux de la rentabilité. Et pour elle, la rentabilité en question, faire travailler 36 heures, payer 35, annualisation du temps de travail et pour couronner l'ensemble, le big chantage, un PSE pour mettre tout le monde d'accord, en concluant aussi sur une prime d'intéressement qui serait plutôt revue à la baisse sur les économies réalisées et 200 euros si l'assiduité est là. Comme tout le monde compte son pécule aujourd'hui, les grévistes dans ce marché de dupes perdraient entre 35 et 40 heures rémunérées par an. À Nîmes, c'est le 18 janvier, 80% des grévistes chez Adrea. C'est une mutuelle pour une grève, donc pour une matinée de rouspétance à propos des salaires à revaloriser et un effectif plus important. En Martinique, et c'est comme à Paris, hein, c'est là ça se passe au Lamentin, colère des salariés de l'entreprise de nettoyage Madganet, le 18 janvier, 400 salariés, rassemblement devant le siège à Acajou pour l'ENAO et une liste de revendications en 15 points que je n'ai pas sous la main, mais c'était un peu long à énumérer, dont cette fameuse prime à la vie chère, dont on se rappelle évidemment cette lutte en Martinique en 2009, qui avait fait pas mal de bruit, etc., etc. Il y a eu un rassemblement également à Paris, dans le 20e arrondissement, c'était toujours le 18 janvier, ça se passe au Vignoles, donc le quartier des Vignoles. Ça se passe aussi au gymnase, hein, le rassemblement. Soutien aux mineurs étrangers, étudiants, ici, qui ont pour seul refuge, eh bien, la rue, et y dormir, y vivre, et manger que de temps en temps. Donc, pas de logement, pas de prise en charge, l'isolement total. À Bourg-en-Bresse, avec une grève du 11 janvier, par le personnel de l'EREA, Philibert Commerson. C'est des enseignants, des enseignantes et éducateurs, éducatrices spécialisées en internat contre une transformation de leur poste en surveillants et surveillantes et par des surveillants et surveillantes précaires et sans formation spécialisée. Donc, grève avec ici le syndicat EFO. À Trélissac, on a beaucoup parlé de Trélissac cette temps-ci. Mais là, on va en parler d'une autre manière, puisque bah, c'est dans le 24, hein, c'est en Dordogne, avec une poursuite de la grève à la Poste le 20 janvier sur la plateforme de distribution. 35% des agents et agentes ont suivi donc le préavis de grève de la CGT. Ils étaient 12 sur 34 pour des moyens de remplacement pour le service public de distribution du courrier et éviter les tournées non distribuées. La poursuite d'une grève également, c'est à Orly avec les salariés de Hertz, le loueur hein, de véhicules, pour dénoncer une flexibilité horaire épuisante, sans changement de salaire. 80 euros de mieux étaient exigés, alors que la direction en proposait 26, et retour à l'horaire hebdomadaire, trop de flexibilité, la corde, évidemment, elle doit casser à un moment donné. Mobilisation aussi des salariés de EDF. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais il y a eu cette mobilisation. C'était récent, hein. C'est la direction qui a annoncé en ses débuts 2016 5% de baisse dans l'effectif sur 3 années sur le périmètre EDF. Sur la période, donc, de 2016 à 2018. Les salariés sont sur le pont depuis novembre 2015. 67 000 salariés. Donc, si on compte un peu les suppressions de postes, eh bien, ça fera 3350 postes supprimés, précisés sans licenciement, voire 4200 selon la CGT, et un plan d'économie à 700 millions d'euros. Il y avait 21% de grévistes.
Je sais pas comment ils font, mais il y a toujours des licenciements sans perte d'emploi pour les patrons. Quoi. Ils sont assez forts quand même.
Si tu veux la porte est grande ouverte, faisons. Hein. Et puis je vais terminer sur encore 5 minutes là sur des luttes pas si étrangères. Donc une rétrospective hein, pour voir un petit peu ce qui se passe hors de nos frontières et on voit que finalement c'est toujours la même chose. Hein. Ça se ressemble étrangement. Si j'ose dire, sans jeu de mots. Donc en Angola, à Luanda, c'était fin 2015, le 31-12 exactement, avec une grève dans les transports publics de la capitale. Les TCUL ont connu donc à cette date leur 13e jour donc de grève. Alors en cause, eh bien, c'est le non-paiement des salaires depuis 9 mois. Alors ce qui n'arrive pas encore pour l'instant ici, mais je pense que peut-être que ça va pas tarder. Donc ce qui aurait causé en fait la mort d'une vingtaine de personnes par manque de soins. En Argentine, c'était en juin 2015 avec une manifestation contre des féminicides d'ampleur et violences tout court envers les femmes. 150 000 personnes ont participé à cette manifestation à Buenos Aires. Historique, c'est une manifestation historique pour les médias.
En Arménie, en septembre 2015, c'était plusieurs centaines de personnes en manifestation à Erevan contre la hausse du prix de l'électricité. La police est intervenue à coups de bombes lacrymogènes. Et en juin, une même manifestation pour le même motif avait amené 10 000 personnes. Bangladesh, maintenant, avec une révolte et grève dans le... c'était en janvier 2016, une révolte et grève dans le district de Habigan. C'est ben la cause, c'est que le gouvernement veut leur piquer des terrains de culture, culture de légumes et de fruits, ce qui met un peu de beurre dans les épinards de ces travailleurs et travailleuses qui touchent 80 centimes d'euros par jour. Alors en monnaie du Bangladesh, ça fait 69 takas. Voilà. Alors il va de soi que ces cultures réjouissent leur consommation personnelle et le projet gouvernemental, c'est d'agrandir les champs de thé où ils travaillent. Et puis pour terminer, vraiment là, sur cette page de lutte pour les étrangers, c'est en Bosnie-Herzégovine, c'était en décembre 2015, avec un appel de l'Union syndicale qui regroupe 15 syndicats pour une manifestation à Banja Luka contre les réformes du travail. Intervention violente des flics, là aussi, il y a eu des blessés. Le Parlement n'a pas pu voter les réformes par l'absence de l'opposition. Mais, vous en faites pas, celui-ci a un peu plus tard, donc le Parlement a quand même voté pendant la nuit, donc c'est une sorte de 49-3 à la Bosnie, en Bosnie-Herzégovine, quoi.
Chacun le sien.
Voilà, pour ce qui est des luttes de ce.
Ok.
De cette émission.
Eh ben, on va faire une petite pause musicale et puis après on attaquera pour la dernière partie. Il nous restera 20 minutes, c'est parfait.
Alors qu'est-ce que tu nous
Je propose une petite reprise de Métal Urbain par le Bal des Enragés que je ne pourrai pas aller voir la semaine prochaine parce qu'il n'y a plus de place. Donc voilà, on balance.
Tu passes une annonce en fait.
Si, attends.
Ça marche. Je m'excuse, j'ai fait une petite erreur technique.
C'est reparti.
Je recommence.
On fout le bordel! Thank you.
Oh, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Une troisième page se prépare pour cette émission extraordinaire.
Et c'est parti. Ouais, on va parler d'un nouveau projet de loi qui vise directement la fraude dans les transports en commun. Alors, ce projet de loi prévoit en fait 2 mois de prison et jusqu'à 3750 euros d'amende pour les personnes qui altéreraient la présence des contrôleurs dans les transports en commun. Donc c'est qu'un des seuls des aspects de cette loi qui criminalise la fraude, qui a été validée par l'Assemblée nationale en décembre et qui doit être examinée le 27 janvier par le Sénat. Donc concrètement, ça veut dire que, en gros, tous les messages du genre contrôleur sur la ligne A à Charpennes, contrôle dans le C1 direction Pardieu, pour signaler la présence de contrôleurs, sera bientôt passible de prison et d'une énorme amende. Que ce soit via les réseaux sociaux, des SMS ou les applications et sites dédiés, ça ne changera rien, tout est complètement interdit. Cette mesure hyper répressive qui a validé l'Assemblée nationale donc le 17 décembre précisément est inclus évidemment dans un paquet de mesures en plus visant le renforcement de la sécurité dans les transports après la tentative d'attentat dans le Thalys l'été dernier. Donc la loi passera le 27 janvier.
Aujourd'hui normalement, donc je sais pas ce que ça a donné, mais c'était au Sénat pas vérifié ce qui s'était dit, mais on le saura du coup peut-être demain, voilà, si c'est à mon avis. Ils ont peut-être même rajouté des choses, peut-être.
On va avoir des surprises. Mais c'est déjà bien complet. Hein.
Ouais.
Donc, si certaines des dispositions de ce projet législatif, comme la palpation des usagers, ont fait couler un peu d'encre, cet article précis est passé discrètement. L'ensemble de cette loi est en réalité une véritable déclaration de guerre à la fraude, cheval de bataille des 3 énormes entreprises françaises du transport public attachées à leurs bénéfices. En ligne de mire de cet article 13 du projet de loi, ces messages très pratiques échangés sur les réseaux sociaux, ou pire, les applications sur smartphone qui avaient rendu dingues les multinationales. À Lyon, le Citral s'était engagé à obtenir l'interdiction de ce genre d'application après l'apparition de Un Ticket, qui était une application qui visait à se prévenir dans les transports en cas de contrôle. Les médias avaient alors largement relayé les plaintes des mastodontes du transport en commun. L'appli Un Ticket s'était rapidement éteinte. Face à l'incompréhension des médias et des autorités de transport, nous avons choisi de mettre fin au service, avait déclaré la jeune société lilloise. Pour éviter de sévères sanctions, ce type de dispositif devra maintenant être très sécurisé. La loi ne prévoit rien, évidemment, contre les malversations financières régulièrement dénoncées autour des marchés du transport public.
Ah oui,
on ne s'en serait pas douté. Si jamais vous alertez de la présence des contrôleurs, donc, vous risquerez donc 2 mois de prison et 3750 euros d'amende. La loi prévoit l'utilisation de l'arsenal habituel pour découvrir qui se cache derrière un site ou un pseudo sur un réseau social, bien sûr. Dans le cas où vous ne seriez pas averti à temps de la présence de contrôleurs, voilà ce qui se passera d'après le projet de loi. Si vous n'avez pas de ticket et que vous ne pouvez pas donner votre carte d'identité ou que vous refusez, vous écoperez en plus d'une deuxième amende, hein, pour être bien sûr.
Cadeau.
Cette amende sera une amende de troisième classe qui pourra être entre 45 et 180 euros d'amende. Donc pour mémoire, l'amende actuellement, c'est déjà pas loin de 50 euros si on peut payer de suite, et 80 si on n'a pas de carte de crédit. Pendant que le contrôleur appelle le commissariat, si jamais vous en profitez pour vous tirer, ce sera 2 mois de prison et 7500 euros d'amende cette fois. Donc l'article 8 bis du projet de loi, hein, qui comporte pas mal d'alinéas comme ça. Si vous donnez une adresse qui n'est plus valable, l'entreprise de transport pourra demander aux impôts ou aux organismes sociaux votre adresse en cours. Si avec d'autres astucieux fraudeurs, vous voulez vous organiser en mutuelle, là, ça devient un peu plus chaud. La loi prévoit la criminalisation des mutuelles de fraudeurs. Deux mois de prison et 3750 euros d'amende encore. Mais alors là, si vous avez eu l'idée d'en faire un peu de pub pour trouver du monde avec vous, pour la mutuelle, ça pourra monter jusqu'à 2 mois de prison toujours, mais... Non, 6 mois de prison, pardon, ferme et 45 000 euros d'amende. Et enfin, le délit de fraude par habitude, qui était donc de 5 infractions... Non, qui passera à 5 infractions dans l'année au lieu de 10. De quoi continuer à gonfler les prisons. Donc pour 5 contraventions, on risquera jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. En attendant, ces quelques conseils à l'égard des usagers de transport public restent d'actualité. Et quelques arguments pour la gratuité des transports en commun qui fonctionnent très bien, évidemment, évite de criminaliser toute une partie de la population et rendre les transports en commun moins anxiogènes. On voit l'exemple de la ville d'Aubagne.
Donc c'est en place depuis 2010, en fait. Et a priori, toujours en place, même depuis le changement de la majorité du conseil général, du coup, qui s'occupe de ça. Du coup, ça marche bien, il n'y a pas de perte financière, et au contraire, parce que c'est un des arguments, du coup, notamment sur Lyon, hein, de la Citral, ça veut dire que les fraudeurs sont, et les fraudeurs sont les grands ennemis des transports en commun. C'est à cause d'eux qui... que les rames sont sales, enfin qu'on peut pas les entretenir, qu'on peut pas les changer parce que du coup il y a un gros coût à cause des fraudes. Bien sûr, tout ça c'est du pipeau. En plus, le président est complètement fou hein, du Citral sur Lyon. Il veut installer.
Et puis on les pointe toujours du doigt pour la sécurité aussi, comme si tous les fraudeurs du coup.
Puis c'est toujours s'en prendre du coup aux plus démunis, voilà, et pas aux autres, voilà, qu'on on tape bien sûr avec ce projet de loi de nouveau, tout en sachant que chaque acte de solidarité, voilà, veut être puni par la loi maintenant. Enfin, on sait, voilà, t'as mis du coup tout ce qui était dans les réseaux sociaux de, pour prévenir des contrôleurs. Donc du coup, ça, tu peux te faire choper.
SMS
du coup,
aussi, hein, c'est pris.
Et à la prison, voilà, SMS, c'est quand même fou, quoi. Et derrière, on savait aussi qu'il y avait une petite campagne qui avait été menée sur Lyon notamment, mais dans d'autres villes, je pense, où on proposait aux gens de partager leur ticket. Donc à savoir de laisser son ticket quand on sort, quand il est encore valable. Ben, on sait que du coup, que la Citral, eux, paye des personnes pour nettoyer tout ça, aller ramasser les tickets qui sont laissés pour les partager, pour les jeter à la poubelle. Hein, voilà, c'est un truc de fou. Enfin, je crois que le dernier truc qu'ils voulaient installer, c'était un portique où tu étais obligé de jeter ton ticket pour que les portes s'ouvrent, pour être sûr que du coup, que les tickets ne soient pas partagés. Voilà. Donc encore un bon truc de fou. Voilà, on surveillera du coup si tout passe dans ce projet de loi. Voilà, la question de la mutuelle des fraudeurs, c'était vachement intéressant parce que du coup, ça permettait, voilà, suite à une petite cotisation, voilà, ça, de pouvoir faire sauter un peu tout ça. Et c'était vachement intéressant. Mais là, bien sûr, comme c'est aux personnes, enfin, notamment les personnes qui prennent le transport en commun, soit par conviction, n'ont pas de voiture ou n'ont pas les moyens d'en avoir une, donc du coup, utiliser le transport en commun, tout en sachant qu'on sait qu'il y a des mutuelles pour les automobilistes qui existent pour faire sauter les contraventions. Il suffit de payer une cotisation à l'année à un avocat qui s'occupe du coup de faire sauter la majorité des contraventions qui sont illégales parce qu'il y a toujours un vice de procédure, voilà, ce machin, etc. Donc pour les automobilistes qui ont plein de thunes, il n'y a pas de souci, on laisse faire. Et par contre, pour les gens qui prennent le transport en commun et qui n'ont pas d'autres moyens de le prendre et qui n'ont même pas les moyens du coup de payer leur ticket, et ben du coup, voilà.
Et puis on voit que c'est carrément visé parce que 6 mois de prison et 45 000 euros d'amende, c'est vraiment énorme, quoi.
Donc notamment le coût là de passer de 10 amendes par an à 5, enfin 5 c'est... ça va très vite, quoi. tu peux t'en prendre 2 par trajet des fois, et du coup derrière voilà donc on conseille bien sûr.
Hein, je sais pas s'ils ont le droit de nous en mettre 2 dans le
même trajet. Si, ouais, je crois bien, ouais, ils s'en foutent. Enfin, au moins dans la journée.
Payer 50 euros, ça vaut pas pour un ticket.
Peut-être pas dans le même trajet, mais au moins dans la même journée, quoi, sur l'aller-retour, on va dire, quoi, si jamais tu prends les transports en commun 3 heures après. Donc voilà, toujours des petits conseils, hein, aider ceux qui veulent frauder, hein, en les laissant passer derrière vous au niveau des portiques. Alerter quand il y a des contrôleurs. Bah, dans les bus, c'est plus compliqué, dans les trams aussi, mais au moins dans les métros, dans certains axes, on peut prévenir les gens pour leur dire, demi-tour, contrôleur.
Prenez un peu au moment de sortir.
Voilà. Prenez les ascenseurs, ça marche bien. Les ascenseurs, c'est pas mal.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, il y a moins en moins de contrôleurs dans les ascenseurs. C'est un peu plus long, mais au moins, ça protège un petit peu si vous fraudez. Enfin, voilà. Puis après, je pense que les conseils, enfin, il y a toujours après des techniques qui sortent de ça. Enfin, quand, à chaque fois qu'il y a une répression, il y a des nouvelles techniques qui sortent pour la solidarité. On espère qu'il y en aura. On va réfléchir. Et puis, il y a peut-être grand temps que sur Lyon, il y a de nouveau peut-être une campagne pour la gratuité des transports et pour l'arrêt de la criminalisation des fraudeurs et des fraudeuses.
Eh ben, en parlant de gratuité des transports, on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe encore au Brésil. On en a parlé la semaine dernière. Et ça a avancé un petit peu parce qu'il y a un état qui s'appelle, excusez-moi pour l'accent, l'Estado de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, qui a obtenu que les transports ne soient pas augmentés et qu'il y ait une discussion autour d'un réajustement du tarif des transports. Par contre, dans tout le reste du pays, il y a encore des appels massifs à la mobilisation, entre autres surtout à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, où ça bouge vraiment beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'affrontements avec la police et les gens sont dans la rue. Là, il y a un appel encore cette semaine, demain, une grande manifestation à Sao Paulo. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on leur souhaite du courage parce qu'on a vu que c'était chaud là-bas, quoi. Mais ils se laissent pas faire.
On va parler un petit peu d'Idée Noire, du coup, le journal du Front de Jeunesse.
Une lecture presque traditionnelle maintenant d'un article d'Idée Noire qu'on ne présente plus. Donc, l'article s'appelle Écologie, la COP est pleine. La conférence des partis, donc la COP 21, s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 en France. Celle-ci a réuni 195 chefs d'État et de gouvernement pour trouver un accord sur le climat. Si Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, se félicite d'un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant,
tout ça,
il semblerait que les choses en soient autrement. Bien que l'accord prévoit une réduction d'entre 1,5 et 2 degrés, ceci reste irréaliste quand on juge des émissions actuelles de gaz à effet de serre. Pour être effectif, l'accord devrait être ratifié par au moins 55 pays représentant 55% des émissions mondiales. D'autant plus que les accords mondiaux sur le climat sont signés chaque année. Mais le même scénario se répète. La COP 21 et l'accord trouvé ne sont qu'un reflet, une fois de plus, d'un système arrivé à son terme. Les objectifs capitalistes sont basés sur une accumulation de richesses par une recherche infinie de profits. Comment cela peut-il être conciliable avec l'état écologique actuel lorsque l'on sait qu'une grande partie des ressources a déjà disparu ? La crise écologique est plus profondément liée à l'exploitation des pays les plus faibles, alors que les États dits du Nord prévoient un fonds de 100 milliards de dollars pour les pays dits du Sud. Ceci ne devrait-il pas se préoccuper d'éviter la crise plutôt que de les camoufler ? Les pays du Sud sont les premières victimes de cette crise climatique qui engendre des catastrophes naturelles sans précédent, ainsi que des réfugiés climatiques obligés de fuir. On comprend alors l'engagement hypocrite, illusoire et inefficace des chefs d'État quand on voit la répression faite aux militants et militantes écologistes jugés par les États comme des terroristes. L'histoire se répète face aux mobilisations du projet inutile d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou par les répressions violentes lors de la marche pour le climat le 29 novembre à Paris. La crise écologique est plus que jamais un enjeu de lutte sociale contre le capitalisme. C'est par ce chemin-là, ici et aux quatre coins du globe, qu'elle sera résolue. Ne nous laissons pas avoir par le capitalisme vert, sa morale et ses conséquences toujours destructrices. Il n'y aura pas de résolution du problème sans un changement radical de système politique, social et économique.
Donc voilà, voilà pour cet article du coup du journal Idées Noires, donc, ouais, qui est créé par le Front Jeunesse de la CG à Lyon. Voilà, on va le rappeler encore un petit peu, mais qu'on fonctionne par commission, et notamment cette commission jeune qui existe pour les lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes et jeunes travailleurs, travailleuses ou sans emploi de toute manière.
C'est ça.
Voilà, vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter le groupe sur le mail groupe-lyon@cga.org,
ouais, ou sur éventuellement, le réseau
sur
social,
réseau social voilà,
bien connu,
sur Facebook, si vous voulez. On va faire un petit point droit du travail, parce que vous savez, tout ce qui se passe... Ah pardon, excusez-moi.
Non, mais je me permets, parce que je vois que ça parlait de Notre-Dame-des-Landes, et pour rappeler qu'ils ont fait un petit coup cette semaine à côté de Limoges où il y a des camions du coup de Vinci qui ont été cramés et attaqués par des anti-aéroports. Donc je me trompe pas, 6 ou 7 camions à 200 à 300 000 euros le camion. Donc ça va leur faire une petite note sympa, je pense qu'ils vont s'en rappeler ce coup-ci.
C'est ballot.
C'est ballot.
Quel dommage. Quel dommage.
Qu'est-ce qu'ils foutaient là ?
Triste pour eux.
Tout à fait.
Voilà,
petit tour du travail, donc vous avez sûrement entendu, voilà, on parle beaucoup de la possible fin des 35 heures, hein, parce que du coup il y a des déclarations de ce bon vieux Macron à qui on mettrait bien quelques claques si on le croise dans la rue, celui-là, qui sont tout de suite démentis par le grand chef Manuel Valls, mais qui du coup n'en pense pas moins, on suppose. Et donc du coup, ça c'est un des axes prioritaires du gouvernement, mettre fin à tout ça de quelque manière que ce soit. Donc là, c'est ce qui est un peu avancé, donc c'est de plus payer les heures supplémentaires au-delà des 35 heures, mais qu'ils soient beaucoup moins payés. Avant c'était à 25%, peut-être les descendre à 10 ou depuis les majorer du tout, du coup, ce qui mettrait fin d'office aux 35 heures. Et il y a aussi tout ce qui est un petit peu accords nationaux avec les représentations syndicales, et que du coup ça aussi ça plaît pas, hein, parce que des fois il y a des blocages qui se font comme ça. On a pu voir non plus, enfin je crois que ça revient dans l'article, mais par rapport à ce qui s'est passé à la FNAC sur le travail dominical avec 3 syndicats du coup qui arrivaient à 50%, bah qui sont qui opposés sont à ça, et du coup ce n'est pas passé. Et donc du coup pour faire ça, bah ils privilégient plutôt les accords de branche voire d'entreprise, parce que dans certaines entreprises il y a aucune représentation syndicale, donc ce serait assez facile pour des patrons un peu vicieux et vicieuses, des patronnes aussi il y en a, voilà, pour contourner un peu ça et pour faire croire aux gens que c'est pour leur bien. Et ben même ça suffit pas. Et maintenant il y a une autre controverse, voilà, sur le recours accru au référendum d'entreprise. Donc si le gouvernement va au bout de ses intentions, il s'agit d'un changement majeur dans les règles sur le dialogue social. Mardi 26 janvier, la ministre de l'Emploi, donc Myriam El Khomri, a annoncé une nouvelle mesure qui donnerait la possibilité d'entériner des accords minoritaires par un référendum d'entreprise. Donc c'est vraiment dévier, enfin voilà, contourner la loi, quoi. Cette disposition critiquée par toutes les confédérations syndicales, à l'exception de la CFDT, donc un jour, il faudra bien s'occuper d'eux et elle quand même à un moment donné. C'est plus possible, quoi. Donc, devrait être inscrit dans le projet de loi sur la réforme du droit du travail qui sera présenté début mars en principe. Voilà, à l'heure actuelle, dans la quasi-totalité des cas, un accord d'entreprise ne peut entrer en vigueur que s'il est approuvé par des syndicats représentant au moins 30% des suffrages lors des dernières élections professionnelles, et sous réserve que les organisations de salariés pesant au moins 50% des voix ne s'y opposent pas. Ce qui est passé pour la FNAC, du coup.
D'accord.
L'idée de la ministre chamboule cet ordonnancement. Elle permet aux organisations qui représentent donc au moins 30% du personnel et qui ont signé un accord de déclencher donc un référendum. Si la consultation donne plus de 50% en faveur du oui, cet accord s'applique, a expliqué cette bonne vieille ministre. Donc cette hypothèse voit le jour car l'exécutif manifeste depuis plusieurs mois le souhait d'encourager la négociation collective. À ce titre, il fait sienne une des recommandations du rapport remis en septembre 2015 par Jean-Denis Combrexelle, dont on a déjà parlé. Le président de la section sociale du Conseil d'État préconise préconisait de généraliser à compter de 2017 le principe de l'accord majoritaire entre guillemets, plus légitime que celui ratifié par des organisations pesant 30% des voix. Mais comme le fait remarquer M. Combrexel dans son rapport, l'exercice n'est pas sans présenter des risques puisqu'il peut s'avérer compliqué d'obtenir l'imprimatur d'organisations représentant une majorité du personnel. Donc l'exemple de la FNAC dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est d'ailleurs récemment heurté à cet obstacle. Son projet d'accord visant à instaurer le travail dominical approuvé par 3 syndicats dont la fameuse CFDT a été abandonné car la CGT, FO et Solidaire, dont l'audience électorale à E3 dépasse les 50% d'entreprises, était contre. Plutôt bien du coup. Voilà. Mais le système évoqué mardi, donc par Madame El Khomri, peut éviter ce type de blocage, pardon, à condition que 50% du personnel consulté dans le cadre d'un référendum dise donc le fameux oui. C'est une manière donc de court-circuiter les syndicats. Tu m'étonnes. Donc déplore Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, avec un tel dispositif, le droit d'opposition des organisations majoritaires passe à la trappe, c'est tout de même un problème. Hein. Cela revient à dire qu'aucun point n'est donné aux élections professionnelles, alors même que nous tirons notre légitimité de celles-ci. Le risque est grand d'engendrer donc de l'incertitude dans le dialogue social, tu m'étonnes. Donc n'est-ce pas pour faire avaler des pilules qui ne passent pas que la ministre envisage une telle option? On veut nous emmener sur un terrain où l'accord d'entreprise est supérieur à tout le reste, c'est absolument dangereux. Cette mesure est scandaleuse, s'indigne quant à elle Fabrice Angaille, membre du bureau confédéral de la CGT. Elle va de pair avec la volonté de privilégier la négociation collective à l'échelon d'entreprise, là où le lien de subordination entre salariés et employeurs pèse de tout son poids, où les menaces de chantage à l'emploi sont les plus fortes. Voilà. Seule la CFDT n'est pas fermée au schéma proposé par Madame El Khomri, mais le référendum ne doit pas être à l'initiative de la direction. Attention, c'est aux organisations signataires de piloter le processus, même si on est pro-patronal, quoi. C'est fou. Voilà. À Matignon, on nous indique que la disposition exposée mardi fait partie des hypothèses sur la table, bien sûr. Rien n'est encore arbitré à ce stade, mais le gouvernement souhaite aller dans cette direction. Tu m'étonnes. Et pour finir assez vite, alors j'aurais pas le temps de tout vous lire, mais un petit tour du côté du musée des Confléances, voilà, avec sexisme et précarité pour les petites mains de ce musée. Voilà, salaire au rabais, temps partiel et sexisme, les démissions se multiplient. Voilà, donc lycée, ça se passe donc vers Perrache par là-bas. Donc voilà, on a la parole d'une Annelise, hein, les prénoms ont été changés. Hein. Les toilettes, c'est au bout du couloir à gauche pour la 15e fois en moins d'une heure. Pas rigolo tous les jours de faire la billetterie du musée. Je pensais que bosser dans un musée, ça allait un peu faire travailler mon cerveau, mais en fait pas du tout. J'ai l'impression de vendre des billets à la chaîne. D'autant qu'Annelise, malgré ses vêtements d'amarre, est frigorifiée. En ce mois de novembre, il n'y a pas de chauffage dans le hall de l'établissement, pourtant flambant neuf. Tu m'étonnes. Après plusieurs semaines de grogne, la direction finit enfin par distribuer des doudounes. Ils sont sympas. Et placer quelques radiateurs d'appoint. Vous savez pas sur la taille que ça fait ce musée, mais effectivement à chauffer ça doit coûter une blinde, mais en même temps fallait y penser avant quoi. Voilà, c'est une toute petite victoire pour les salariés, mais la liste des griefs reste longue. Les visiteurs du musée doivent savoir ce qu'il s'y passe, lance Caroline, la vingtaine. L'ex-médiatrice en a eu aussi plein les guiboles. Bouh. Un jour, notre responsable nous a dit « Les femmes ont leurs règles, elles ont des gosses, elles sont tout le temps malades. » Ou encore « Avec le nombre de filles que vous êtes, c'est vraiment le poulailler ici. » Donc François, 25 ans, lui, look d'aventurier, pull en laine et cheveux désordonnés, a lui aussi quitté le musée. Il confirme, il s'est excusé un jour qu'il y avait autant de filles. Il pense que ça amène une mauvaise ambiance, alors que c'est sa mauvaise gestion qui pourrit tout. Voilà, dans les couloirs de ce navire futuriste de méthane et en verre, musée d'histoire, nature et des sociétés, les salariés n'ont pas vraiment le sourire. Pourtant, le dimanche 20 décembre 2015, l'ambiance est plutôt champagne et cotillon. Le musée des Confluences célèbre son premier anniversaire. Pour l'occasion, l'entrée est gratuite et la presse fait ses choux gras pour son audience supérieure aux prévisions, 825 000 visiteurs en un an. Donc voilà, je vous laisse, parce que du coup là on est, c'est déjà 58, je vous laisse retrouver, enfin vous tapez sexisme et précarité pour les petites mains du musée des Confluences. Enfin, il y a d'autres exemples, voilà, ça fait rêver. Ça fait rêver. Vraiment... Ah, voilà.
Est-ce qu'on a le temps de faire un petit point agenda rapidement?
Ouais, c'est ce qu'on voulait faire, c'est pour ça que j'arrête là maintenant. On rappelle tout ce qui s'y passe pour le week-end. Donc vendredi 13h30, c'est devant. Monsieur. Vendredi 13h30, devant l'Hôtel Dieu, donc c'est route de Vienne, avec un rassemblement, parce qu'il y a un CHSCT extraordinaire à 14h30 suite aux menaces effectuées Oui, 13h30, mais le CHCT est à 14h30, c'est pour ça que le rassemblement est à 13h30. Suite à des menaces sur des syndiqués, notamment CGT et FO ou Sud, je sais plus, en tout cas des syndiqués. Donc il y a un grand rassemblement, n'hésitez pas à passer là-bas. Ensuite, à 16h, c'est devant la grande...
Saint-Jean-de-Dieu,
ouais, route de Vienne, ouais. Et après, c'est 16h, c'est au niveau de la grande poste de centrale de Lyon, la place Antonin-Poncet, pareil avec... un camarade syndiqué qui passe en conseil de discipline. Ensuite, donc 18h30, rendez-vous à la Plume Noire. Soit bien à l'heure parce que ça commence pile à 19h la conférence.
C'est pas si je peux.
Avec, ouais. Non, mais du coup, ouais, ça commence bien à 19h. Mais venez à 18h30 déjà avec un représentant de North Artank, du coup, qui vient nous parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qui se passe notamment en Turquie, mais aussi du côté arménien, arménienne. Tac. Le samedi, 14h30, donc du coup pas hétéro, le rassemblement du coup stop état d'urgence, même si on a un peu les boules, mais c'est pas grave, on y appelle, il y a une mobilisation, faut encourager en espérant que du coup que les deux collectifs qui sont créés à un moment donné s'unissent parce que ça va avoir le coup, hein, ou alors qu'on nous arrête un peu de nous griller les dates, mais bon. Ah, ça reste ça. Ouais, à 16h, du côté de Jean Massé, en c'est soutien aux Kurdes et tout ce qui se passe en Turquie, depuis plusieurs mois, une autre manifestation. Donc, 16h, place Jean Massé. Donc, ça ira jusqu'à Bellecour. Et après, comme je disais tout à l'heure, vous avez plus qu'à prendre le métro pour vous rendre à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, pour la formation droit d'asile avec le collectif Migrants 13. Donc, voilà. Et puis, mardi 2 février, réunion publique, salle 3 de la Maison de la Guillotière par le collectif Stop État d'urgence. Celui dont on fait partie, ce coup-ci. C'est 27 rue rue Béchevelin à Lyon et la manifestation qu'on espère grande, réussie, etc. le 6 février au départ de la plage Jean Massé à 14h. Bah voilà, 21h.
Nombreux et nombreuses.
Bah voilà, je pense qu'on a tout dit.
Sûrement.
On vous rappelle donc les permanences.
Une grande partie. Mobilisation pour Goodyear aussi. Je
ouais, ce sera le 6 février ça. Donc on aura un peu le temps, ouais. Le 4 ou le 6, mais du coup. On se verra, on aura le temps de se voir la semaine prochaine pour en parler.
C'est ça, mercredi c'est prochain. Ça.
Je crois que c'est à 18h Bellecour, plus un défilé qui va du côté du musée des 24 colonnes. Mais on aura le temps d'en reparler
le musée
du coup.
Des 24.
Le musée, le tribunal. J'ai dit musée?
Oui.
Bah, c'est le musée des conférences qui m'est resté un peu dans la tête depuis tout à l'heure.
Ça m'a amusé d'ailleurs.
C'est son côté poussiéreux.
C'est pas grave. Peut-être. donc voilà, on vous rappelle les permes 17h, 19h le mercredi, samedi 15h, 19h avec la collecte permanente en soutien aux migrants et aux migrantes et les cours de langue le lundi soir à 18h aussi à la Plume Noire.
Voilà.
Et si jamais vous êtes des fous et des folles, si vous êtes du côté, si vous écoutez du côté de vers Annecy par là-bas en Haute-Savoie, on sera demain soir, dans une salle. Alors j'ai que l'adresse, je connais pas le nom de la salle. 3 chemins des grèves à Cran. Gevrier pour une conférence de la CEGA du coup sur la solidarité avec les migrants et les migrantes.
Et voilà.
Classe.
Donc c'est fait pour ce soir et on vous dit, on vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une autre émission de Idées Noires.
Bonne soirée à toutes
Ciao.
Et à tous.
Salut à toutes et à tous.